la phrase « Souviens-toi de ton futur » n'est pas du Talmud. C'est une traduction du quatrième commandement de la Bible hébraïque et d'un mot qui en hébreu se dit « zakor ». Et c'est une traduction de Marc Alain Waknin, qui est toujours vivant, qui a suggéré et qui a dit, qui a écrit que la traduction la plus fidèle, c'était « Souviens-toi de l'avenir ». C'était un paradoxe, donc c'est là-dedans que je l'ai piqué, évidemment. Et c'est vrai, alors pour ce qui me concerne, je vais dire pourquoi je suis là. J'ai reçu, je me souviens plus si c'était un mail ou une lettre ou un coup de téléphone de Romain Bondoneau il y a 2 ou 3 ans, qui m'a envoyé d'ailleurs le matériau qui allait constituer le livre et qui m'a demandé très, très, très gentiment de faire une petite préface. Et honnêtement, j'ai dit oui tout de suite parce que chaque fois que je lisais les témoignages de tous les gens qu'on a vus dans le film, ça me parlait pour des tas de raisons. Je me sentais dans les choses qui m'intéressent. Donc j'ai fait cette petite préface, en effet, où je citais, et je me suis inspiré pour faire cette préface, je me suis inspiré d'un livre que j'ai publié dans cette grande série d'enquêtes sur le désarroi contemporain. C'est un livre qui s'appelle « Le goût de l'avenir ». Je vais essayer de vous expliquer pourquoi, à mon sens, le concept de goût de l'avenir était fondamental. Et comme on est en train de le perdre, il nous arrive des choses contre lesquelles il faut lutter. Ce que font d'ailleurs les éveilleurs que j'ai entendus ce soir. Comment vous dire ? Il y a une anecdote pour ce petit livre, dont je suis très fier, donc je n'ai aucune raison de la cacher. C'est que ça m'a fait quasiment devenir pratiquement citoyen d'honneur du Québec. Parce que je vais assez souvent au Québec, presque chaque année depuis 20 ans. Et un jour, j'ai reçu une demande très officielle du Parlement du Québec à Québec, qui m'écrivait avec toutes les solennités d'usage, etc. « Monsieur Guilbeault, est-ce que vous accepteriez de nous céder gratuitement l'usage de votre titre ? Parce qu'on voudrait faire une campagne pour l'année prochaine. Le Québec a le goût de l'avenir. » Alors j'ai dit oui, évidemment. J'ai dit oui, gracieusement, ce qui me paraissait la moindre des choses. Donc j'étais très fier, parce que le Québec a été jalonné assez souvent d'affiches et tout ça qui disait et de slogans qui disaient « Le Québec a le goût de l'avenir ». Mais cette histoire du goût de l'avenir, je vais essayer de vous expliquer d'où elle vient. C'est une autre façon de parler de l'espérance, si vous voulez. Mais ça n'a pas de connotation religieuse du tout. Et c'est très profond, cette histoire. Et pour vous en parler, on va rejoindre d'ailleurs ce qui était dit de Marc Alain Waknin, « Souviens-toi du futur ». Je vais essayer de vous l'expliquer sans pédantisme, parce que j'ai travaillé beaucoup pour essayer de comprendre ça. Il s'est produit, 4 ou 5 siècles avant Jésus-Christ, il s'est produit une révolution copernicienne, si j'ose dire, dans la façon dont nous, occidentaux, nous concevons le temps. Il y a eu une grande rupture par rapport à la conception du temps qui était celle des Grecs, par exemple. Je m'explique. Pour les Grecs, comme d'ailleurs pour les civilisations orientales, le temps est un cercle. Le temps, c'est l'éternel retour. C'est-à-dire que le temps, il forme un cercle. Le temps est circulaire. Ça entraîne des conséquences qu'on retrouve chez tous les grands auteurs grecs, notamment chez Aristote, mais chez bien d'autres. C'est-à-dire que, comme le temps est circulaire, l'idée de vouloir changer le monde ou l'améliorer est idiote. Parce que ce que vous avez changé maintenant, le temps d'hier reviendra tout seul. On est dans un mouvement qui est calqué sur le mouvement des astres. Donc ça veut dire que face au temps circulaire, nous les hommes, pour y vivre tant bien que mal, nous n'avons qu'une solution, c'est l'adaptation. Il faut nous adapter au côté périssable des choses, à l'impermanence du monde, c'est-à-dire qu'il revient, il tourne en rond. Et il y a 2 manières de s'y adapter, je fais court, je fais le malin parce que j'ai été l'éditeur d'un grand helléniste qui s'appelait Cornelius Castoriadis, qui faisait un séminaire sur la pensée grecque à l'école pratique des hautes études, qui est mort en 97, et donc j'ai beaucoup appris de lui. Et comment vous dire ? Ça signifie qu'il y a 2 façons de s'y adapter, il y a soit le stoïcisme, c'est-à-dire on se raidit comme ça et on accepte, y compris quand c'est douloureux, où il y a l'épicurisme, puisque le temps revient, profitons de la vie, etc., voire quelquefois de la pire façon, ce qu'on appelait les pourceaux d'Épicure, qui a piqué. Donc, ça veut dire qu'en tout cas, il y a une chose qui est absolument étrangère à la pensée grecque, c'est l'idée de vouloir réformer le monde, de vouloir améliorer le monde. Et quand je vous parlais d'une révolution copernicienne, à peu près 5 siècles avant Jésus-Christ, c'est les prophètes juifs. C'est les prophètes juifs dont nous sommes les héritiers, qu'on soit juif ou pas, moi je ne le suis pas, mais peu importe. Les prophètes juifs ont émis tout d'un coup une idée qui a paru scandaleuse, incroyable à l'époque. Ils ont dit « le temps n'est pas circulaire, il est droit ». C'est-à-dire que le temps des hommes, il est enraciné dans une mémoire et orienté vers un projet. C'est la flèche du temps. Et vous comprenez bien que changer de paradigme, comme on dit maintenant, changer de paradigme de cette façon, ça n'est pas neutre. Parce que si le temps est droit, ça veut dire que nous sommes responsables du monde qui vient. Ce n'est pas le hasard qui fabriquera le monde de demain. Nous y sommes embarqués, ça veut dire que le monde de demain sera ce que nous voulons qu'il soit. Alors du coup, dans le Talmud, il y a quantité de locutions ou de bouts de phrases que j'ai trouvés qui illustrent cette manière. Par exemple, il y a une phrase du Talmud que je trouve très belle qui dit « Il n'y a pas de destin pour Israël ». Ça veut dire qu'il n'y a pas d'automatisme, il n'y a pas de destin préfabriqué. Il n'y a de destin que celui que nous fabriquons nous-mêmes. Ou bien la phrase qui revient l'an prochain à Jérusalem, enfin de l'exil, etc. C'est toujours l'idée d'un volontarisme. Donc cette idée juive à l'origine, ce que les juifs appellent le prophétisme, que nous chrétiens on a appelé l'espérance, que Condorcet, qui était un laïc au temps des Lumières, il a appelé le progrès. C'est la même chose. C'est la conviction qu'on peut améliorer le monde. Et en hébreu, d'ailleurs, il y a une expression en hébreu que je trouve très belle, qui s'appelle « Nous sommes désormais assignés au tikkum olam ». Tikkum olam, c'est la réparation du monde. Il nous incombe de réparer le monde. Ce que j'ai entendu ce soir de la part des éveilleurs, qu'est-ce qu'ils font d'autre que de réparer le monde qu'on est en train de casser? Vous comprenez? On est véritablement en plein dans le sujet. Mais ça veut dire aussi que ça a une signification politique importante, politique au sens noble du terme. Parce que l'expression « le goût de l'avenir », qui a l'air très moderne, en fait, elle est assez moderne, elle date de la fin du XIXe siècle. C'est une expression de Max Weber, le grand sociologue de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle. J'étais tombé sur un texte de Max Weber où il disait, avec beaucoup de pénétration, « la politique, c'est le goût de l'avenir ». Et dans le contexte, ça voulait dire « la démocratie, c'est le goût de l'avenir ». Pourquoi ? Parce que pour vous engager comme citoyen, pour faire ce qu'on a vu, ce que font les éveilleurs quelquefois, pour imaginer du nouveau, pour changer, pour améliorer les choses, il faut bien que vous soyez attaché à l'avenir. Et vous pensez que l'avenir, c'est plus important, c'est plus urgent que cette espèce d'évanouissement un peu bêta dans le présent, comme on le fait maintenant, dans le court terme. Regardez à quel rythme nous contraignent l'air du temps, si j'ose dire, la télévision, les réseaux sociaux, les machins. Moi, dans ma profession de journaliste, c'est invraisemblable, parce que le temps ne cesse de se raccourcir. Quand j'étais jeune journaliste, bon, on s'attachait à publier des informations exactes. Donc, on prenait soin de les vérifier. Vous comprenez ce que je veux dire? L'important, ce n'était pas d'avoir une information avant l'autre, c'était d'avoir l'information la plus exacte. Maintenant, ce qui compte, quand vous regardez BFM, c'est d'avoir l'information avant les autres. Qu'elle soit fausse, on s'en fout, on verra plus tard, quoi. Donc on est entré dans un système complètement cinglé, vous comprenez ce que je veux dire. Et j'ai trouvé un jour, par hasard, sur France Culture, j'ai entendu une interview, il n'y a pas très longtemps, à propos, vous savez, du scandale Volkswagen, où ils ont triché sur les trucs de pollution de leur voiture, et ça leur coûte des milliards de dollars. Et il y a un ingénieur qui connaît bien le système automobile qui a dit « je vais vous donner la vraie explication ». C'est qu'auparavant, dans l'industrie automobile, le projet d'entreprise, c'était de faire la meilleure voiture du monde. Maintenant, le projet, c'est de faire la voiture qui se vend le mieux. C'est-à-dire qu'on ne se bat pas plus pour la qualité du produit, mais pour sa vente. Une grande boîte comme Volkswagen, allemande en plus, qui est réputée pour tout ce qu'on veut, etc., elle a été elle-même aspirée par cette espèce de folie du court terme. Vous comprenez que c'est complètement fou. Et si je vous parlais de la manière dont fonctionne la bourse, les marchés financiers, vous croyez que Parce que vous savez que la mondialisation, en gros, tout a été financiarisé. Ce qui compte, c'est les puissances d'argent, les agences de notation et toutes ces conneries. Mais vous savez que vous pensez toujours que dans les marchés financiers, il y a des hommes qui disent les ordres, j'achète, je vends, que ça se passe comme ça. Mais vous rêvez. Vous rêvez. Parce qu'autrefois, entre l'ordre d'achat et l'ordre de vente, c'est-à-dire le moment où l'argent se gagne ou se perd, il s'est écoulé une journée ou deux, voire trois. Puis après, ce délai, il a été raccourci. Ça se passait en une seule journée. Puis après, ça a été encore raccourci, ça se passait en une heure. Puis après, ça a été encore raccourci, ça se passait en une seconde. Puis après, ça a été raccourci, ça s'est passé en une microseconde. Puis après, ça a été encore raccourci, ça se passe en une nanoseconde. Un millionième de seconde. Entre l'ordre d'achat et l'ordre de vente. Et vous comprenez bien que dans cette situation-là, le cerveau humain ne peut plus fonctionner. Donc ce qui gouverne la bourse, ce sont les ordinateurs qui sont programmés pour vendre. C'est ce qu'on appelle le trading haute fréquence. Si vous êtes un jour face à des financiers, demandez-lui de vous expliquer le trading haute fréquence. D'abord, il va essayer de minimiser, c'est pas si grave que ça, parce qu'en fait, c'est dévastateur. Ça veut dire, concernant la bourse, c'est les machines qui ont pris le pouvoir. Si j'étais un auteur de science-fiction, mais c'est les machines qui ont réellement pris le pouvoir. Alors vous me direz, on peut toujours déprogrammer un ordinateur. Oui, mais enfin, mon Dieu, c'est très très compliqué quand il y a des millions d'ordinateurs en jeu. Donc j'ai écrit beaucoup de textes dans mes livres sur ce que j'appelle la maladie du temps. Nous sommes malades du temps. Parce que nous pensons que... comment vous expliquer ? J'avais fait un jour, c'était en Belgique, on m'avait donné un tableau, j'avais fait un dessin pour essayer de faire comprendre ce qui s'était produit. Autrefois, notre rapport au temps, ça ressemblait à un sablier, vous savez. C'est large en haut, puis c'est large en bas, puis au début, entre les deux, il y a un petit goulet par où se déverse le sable. Ça veut dire que ce qui est en haut, c'est le passé, et ce qui est en bas, c'est l'avenir. Et au milieu, c'est le présent. Ça veut dire que ce qui compte, c'est le passé et l'avenir. Et le présent, c'est juste un petit truc. Maintenant, c'est le contraire. Si on voulait refaire la même figure, il faudrait faire un ballon de rugby. Avec le présent qui a pris toute la place. Et puis le passé qui est tout petit, parce que tout le monde perd la mémoire. Vous avez remarqué que les gens, y compris à la télévision, moi j'entends des... Notamment quand il est question de guerre, comme j'ai beaucoup travaillé sur le sujet, j'entends des âneries monumentales, incroyables. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc, parce que ce qui compte, c'est d'aller vite, tout ça. Donc nous sommes réellement malades du temps. C'est pour ça que cette idée du goût de l'avenir, cette responsabilité que nous donne l'adhésion à ce nouveau paradigme, qui nous rend responsables du futur, je pense qu'elle est fondamentale. Et quand nous sommes en train de perdre ce goût de l'avenir, je pense qu'on peut craindre tous les dérèglements. Je pourrais vous donner encore quantité d'exemples. Romain Bondonneux, très gentiment, a expliqué que j'avais été correspondant de guerre, en effet, pendant 26 ans, pas tout à fait 30 ans, pour Sud-Ouest au début, ensuite pour Le Monde et ensuite pour Le Nouvel Observateur. Mais concernant la guerre, vous écoutez quelquefois à la télévision, à la radio, ce que dit cet imbécile de Donald Trump ? Non, mais attendez, j'osais pas dire ça il y a quelques semaines. C'est quand même le président des États-Unis. Maintenant, j'ose dire que c'est un crétin qui peut mettre le feu au monde. Il gouverne par tweet. C'est combien ? 146 ? Maintenant, c'est 280, je crois. Il gouverne par tweet et honnêtement, il fait n'importe quoi. Et là, c'est vrai que j'ai fait un éditorial pour le Sud-Ouest de dimanche où j'étais effrayé parce que j'ai vu un film qui n'a pas encore été... diffusé, je défends, c'est fait par une femme aussi, qui s'appelle Sarah Ferrer, qui a fait un film magnifique où elle a travaillé toute seule pendant plus de 2 ans pour montrer ce qu'est vraiment la guerre. Et la guerre, ça ne ressemble pas à Hollywood, vous comprenez ce que je veux dire ? La guerre, ça ne ressemble pas aux histoires héroïques que raconte Hollywood. La guerre, c'est du sang, c'est de la peur, c'est de la pisse, c'est de la crasse. C'est du désespoir, c'est des odeurs... Alors, elle a fait un film incroyable, qui dure 2 heures, où elle a enchaîné une série d'images qu'on ne voit jamais, parce que ce n'est pas des images gore, ce n'est pas des images sanglantes, mais c'est des images tellement effrayantes qu'aucune télévision n'a osé les montrer, ou très rarement, ou à 2 heures du matin. Et ces images, le déroulé de ces images, elle les fait commenter par des gens très différents. Par exemple, un type qui est formidable, qui est psychiatre aux armées, et qui explique les mécanismes de la violence et tout ça à l'intérieur de la tête des soldats, etc. Il y a aussi le grand rabbin de France, Haïm Korsia, qui parle avec beaucoup d'intelligence de ça, parce que bon, il a été aumônier militaire, enfin aumônier militaire juif dans les armées. Et il y a un confrère que j'aime beaucoup, qui est un ancien de Libération, qui s'appelle Jean-Pierre Perrin, qui lui raconte à un moment donné, et d'ailleurs il raconte un souvenir, elle le fait parler. Et ce souvenir, pourtant, c'est un dur à cuire, il a couvert beaucoup de guerres, et tout d'un coup, sa voix se met à trembler. Parce qu'il parle d'une scène, et quand il en parle maintenant encore, je veux dire qu'il est au bord des larmes. Ça se passait au Liban, après un bombardement d'un petit village du sud Liban, par l'aviation israélienne, et il était très proche, donc il est arrivé en même temps que les secours, quoi. Et avec des maisons qui étaient effondrées, dans lesquelles on sortait un par un des cadavres d'adultes et aussi d'enfants. Et à un moment donné, on a sorti un cadavre d'enfant qui était une partie du corps déchiqueté et il avait encore dans la bouche sa tétine. Et il ne peut plus encore maintenant parler de ça sans, vous comprenez, je veux dire, sans avoir des larmes qui l'habitent. Et vous verrez, enfin, si vous lisez Paris-Provence, j'en parle demain. Mais ça veut dire que ce film, quand on a vu ce film, on est en rogne contre ces connards que sont devenus Netanyahou d'un côté, Trump de l'autre, et puis l'autre, le prince héritier d'Arabie Saoudite et tout, qui sont des fous furieux. Parce que vous avez vu ce qui s'est passé les dernières semaines à Gaza, quoi, tiré à balles réelles, le monde entier est révolté. Mais ça veut dire que de fil en aiguille, ils peuvent mettre en route un mécanisme de guerre mondiale. C'est pas impossible. Moi, j'entends des gens qui sont beaucoup plus compétents que moi en matière de stratégie et tout ça. Je vois que des experts commencent à dire que ce n'est pas impossible. Que de fil en aiguille, on s'approche parce que la Turquie et tout ça, il y a de plus en plus d'intervenants extérieurs. On est dans des mécanismes de fous, vous comprenez ce que je veux dire. Et quand j'ai vu ce qui se passait à Gaza ces dernières semaines, j'ai d'ailleurs un mauvais réflexe parce que je me suis dit au départ, les gens ont tellement peur d'être traités d'antisémites qu'ils n'osent plus parler quand Israël est en jeu. Et je vois que ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Que maintenant, le monde entier, il y a eu une réunion du Conseil de sécurité hier à l'initiative de Bahreïn, qui demande une enquête, qui s'adresse à toutes les chancelleries du monde. Donc ça veut dire qu'on est au bord de quelque chose de très grave, vous comprenez. Et ce n'est pas la racine principale, mais c'est une des racines. Il y a cette maladie du temps, quoi. Trump, il arrive comme un éléphant dans un magasin de porcelaine et il dit, on va régler la question en deux coups de cuir à peau. Il a fait semblant de croire qu'il avait réussi à convaincre le Coréen du Nord, vous savez. Et vous le savez que depuis, le type a dit qu'il allait annuler ce rendez-vous. Et il y a des... Oui, parce que quand il a dit qu'il était pour la dénucléarisation, il a rappelé qu'il voulait dire, y compris américaine. C'était pour la dénucléarisation de toute la région de l'Extrême-Orient. Et du coup, aux dernières nouvelles ce matin, il avait toujours dit qu'il allait annuler la réunion. Vous imaginez la gifle pour l'Amérique et pour nous tous, quoi. C'est pour ça que je fais une... tout à fait une parenthèse qui n'a rien à voir, parce que je ne suis pas là pour parler politique, mais moi, je l'ai écrit, alors j'ai aucune raison de le cacher. J'ai été gêné des simagrées qu'a fait notre président avec ce Trump. Le fait qu'il... Honnêtement, j'ai fait un éditorial, d'ailleurs c'était la semaine dernière, où je disais, honnêtement, à la fin, cette démocratie de la papouille, c'est-à-dire je t'embrasse, je te viens, je te prends par la main comme un petit garçon, etc., aucun président français n'avait été traité comme ça. Et moi, qu'on soit pour ou contre Macron, moi, j'étais humilié. Alors, je sais bien qu'il pensait que c'était pour de bonnes raisons qu'il allait réussir à convaincre le bonhomme. Pas du tout. Dès qu'il a été parti, le type a dit « je reviens sur rien ». Hein, vous avez remarqué ça. Ni sur l'accord sur le climat, ni sur la guerre économique avec l'Europe. C'est-à-dire que, voilà, Trump est devenu un espèce de... Je ne sais pas comment dire... C'est la première fois que ça arrive dans l'histoire, hein, qui est le docteur Follamour qui a pris le pouvoir à Washington. Vous avez vu ce film, hein ? C'est le docteur Follamour. Alors bon, bah, je ferme la parenthèse, mais ça veut dire que... Et c'est vrai que ça, du côté de chez... Je ne suis pas un psychiatre pour analyser le comportement pathologique de Donald Trump, mais il y a aussi un rapport au temps bizarre. Parce qu'il s'imagine, il va faire un tweet, hop, les choses vont se faire. il va menacer le Coréen d'un, en lui envoyant un tweet, j'ai un plus gros bouton que toi. En plus, vous voyez l'allusion. Vous vous souvenez qu'il a dit ça à propos de la bombe atomique. Le type a dit, mais parce que le Nord-Coréen avait dit, je vais finir par appuyer sur le bouton. Et Trump lui a répondu, oui, mais j'ai un plus gros bouton que toi. Enfin, vous vous rendez compte qu'un président de la première puissance mondiale réponde ça par tweet et qui gouverne le monde comme ça. Donc c'est quelque chose de fou. Et c'est vrai que, bon, moi, ça me met en colère, en effet, mais ça donne raison à tous les gens qu'on a entendus. Et à tous les gens qu'on entend dans le film magnifique de notre ami Cernat, quoi, honnêtement, à qui je rendrai jamais assez hommage, parce que tous ces éveilleurs, ben, ils sont convaincus que ça vaut le coup de se battre pour l'avenir. S'ils n'y croyaient pas, ils ne le feraient pas. S'ils ne croyaient pas les éveilleurs de notre ami Bordoneau, ils n'accepteraient pas de travailler pour rien, de travailler des heures sans être payés, de travailler pour le... Parce qu'ils ont une détermination qui remplace tout le reste. Mais cette détermination, c'est la conviction que l'avenir, il faut s'en occuper. Parce que c'est notre responsabilité. J'avais vu ça, j'imagine que tous les gens qui sont ici, peut-être que je me trompe, mais ont vu le film Demain. Vous avez vu ce film magnifique. Moi, j'ai trouvé ce film incroyable. Et d'ailleurs, j'ai trouvé incroyable. En même temps, j'ai été assez critique à l'égard de beaucoup de médias, mes confrères, parce que j'avais été tellement impressionné par ce film que du coup, j'avais collectionné toutes les comptes rendus de ce film dans la presse, dans Le Monde, dans l'Obs, etc. Et presque tous les commentaires qui étaient des commentaires de louanges, mais c'était des louanges, à mon avis, empoisonnées. Parce que ça consistait à dire, ah oui, c'est un film sympathique, c'est vraiment, ça fait du bien, c'est un petit peu sympathique. C'est un peu naïf, bien sûr, mais c'est sympathique. Mais c'est pas du tout ça, ce film. Il y a une part de contestation radicale dans ce film. Tous les experts qu'ils interrogent, ils mettent à bas littéralement toutes les conneries qu'on entend, les conneries mainstream, comme on dit. Donc c'est un film bien fait, souriant, agréable à voir, mais c'est un film de combat. Enfin, c'est comme ça que je l'ai... C'est comme ça que je l'ai perçu, et j'imagine que vous l'avez perçu vous aussi. Quand on dit dans ce film, c'est un expert qui le dit, c'est pas eux, c'est pas ces jeunes. Quand un expert dit, vous savez, on sait, je crois que c'est comment il s'appelle ce Suisse qui était aux États-Unis, ça va me revenir son nom. Mais quand cet expert dit, on sait maintenant que l'agriculture industrielle, justement celle que regrettait d'avoir lancée, d'avoir inauguré Pisani, l'agriculture industrielle dans le monde, elle ne produit que 20% de l'alimentation du monde. Hein ? Moi, dans le film, ils disent 20. Alors, c'est peut-être encore moins. Et que le reste, les 80 ou 90%, sont produits par la petite agriculture. La petite agriculture qui, justement, a un rendement infiniment supérieur. C'est-à-dire que ce qui sauvera le monde, ce n'est pas les grandes sociétés, ce n'est pas Monsanto, ce n'est pas tous les géants qui le détruisent, quoi. Et donc, moi, j'avais interprété ce film comme un film de combat, mais d'un combat loyal, intelligent. Ils ont pris leur temps, ils ont traversé le monde. Moi, j'ai deux filles qui ont 32 ans et 34 ans, qui sont assez sévères pour le cinéma, et elles ont été enthousiasmées par ce film, quoi, dès qu'elles l'ont vu, quoi. Ce n'est pas par hasard, quoi. Donc, encore une fois, c'est la maladie du temps. Et puis, il y a une autre maladie que j'ai vue à chaque fois que j'entendais les témoins, les éveilleurs qui parlaient dans ce film. Ils l'ont pas dit assez fort, et nous ne le disons pas assez fort. C'est qu'on a une certitude. C'est qu'on ne peut pas continuer à vivre comme ça. C'est-à-dire qu'il nous faudrait... C'est Daniel Cohen, qui est un économiste, qui l'a dit, qui est économiste à Normale Supérieure, qui a dit, pour continuer de vivre comme nous vivons, il faudrait trois planètes. On n'en a qu'une. Alors comment on va faire? Et dans son livre, il donnait d'ailleurs des précisions. Il disait, par exemple, savez-vous que si les Chinois, on peut leur souhaiter, avaient demain autant de voitures par famille que les Européens, même pas les Américains, parce qu'ils en ont encore plus, la Chine absorberait à elle seule toute la production pétrolière du monde. Alors comment on fait? Alors je sais bien qu'on peut envoyer Jean-Pierre Raffarin, qui aime bien les Chinois, pour essayer de convaincre les Chinois de rouler encore en vélo une cinquantaine d'années pour nous faire gagner du temps, quoi. Mais donc on sait, si vous voulez, on sait qu'il y a des blocages. Et Daniel Cohen, dans le même livre, il prenait un exemple qu'on cite moins, alors que moi je l'ai trouvé, peut-être en plus je suis journaliste, je l'ai trouvé encore plus angoissant. Il disait, si les Indiens Non, si nous consommions, nous, le monde entier, autant de papier que les Indiens, toutes les forêts du monde n'y suffiraient pas à fabriquer le papier. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc on sait qu'il y a des blocages incroyables et on fait comme s'ils n'existaient pas. Alors c'est bien, on a un président qui était tout content d'avoir pris Nicolas Hulot comme on prend une proie, quoi, une prise de guerre, quoi. Mais j'ai l'impression qu'il est en train de détruire Nicolas Hulot lui-même, quoi. Honnêtement, je pense que... moi, je le connais, je l'admirais beaucoup et tout ça. Je le vois engoncé dans la politique, obligé de négocier, d'avaler des couleuvres plus grosses que sa tête. À force, vous comprenez ce que je veux dire. Bon, il a eu quelques petites victoires, mais bon. Et quand il dit d'ailleurs qu'il a gagné sur Notre-Dame-des-Landes, j'en suis pas très sûr parce que j'ai essayé de lire. Vous savez, quand j'ai pas été sur place, mais j'ai essayé de lire ou d'écouter tout ce que je pouvais entendre. Parmi les gens qui se sont installés à Notre-Dame-des-Landes pendant 10 ans, il y a des gens qui voulaient inventer des choses assez proches de ce qu'on voit dans le film de notre ami Cerna, quoi. Ce n'étaient pas des cinglés, c'était des types. On se rendra peut-être compte un jour qu'ils étaient plus réalistes quant à l'avenir que le ministre de l'Agriculture aujourd'hui, dont j'ai oublié le nom, Travers, qui m'a l'air d'être une calamité, bon... Donc, vous savez, je pense qu'il y a des... Il faut... On aurait dû faire dire, poser la question à un des éveilleurs. Nous sommes en colère, à bon droit. Mais il faut que nous apprenions à gérer notre colère. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que notre colère nous entraîne à des choses... Et là, je vais vous citer, non pas... les prophètes juifs, mais je vais vous citer saint Augustin, en bon chrétien que je suis. Parce que j'avais trouvé un jour, j'ai beaucoup lu saint Augustin, j'avais trouvé une citation de saint Augustin, et pas moyen de retrouver la source. Alors il y avait à Bayard Press, parmi les assomptionnistes, il y avait un grand spécialiste de saint Augustin, et j'ai déjeuné avec eux, avec les assomptionnistes, enfin un petit, quand ils étaient encore rue Bayard. Et j'étais à côté du grand spécialiste. Je lui ai posé la question. Je lui ai dit, mon père, est-ce que vous connaissez cette phrase ? Il me dit, oui, bien sûr, je la connais. Est-ce que vous pourriez m'aider à retrouver la source ? Moi, je ne peux pas m'en servir si je ne connais pas la source. Alors, il a éclaté de rire. Il m'a dit, Jean-Claude, vous savez, il a tellement écrit, Saint-Augustin, que trouver la source d'une phrase de lui, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Mais cette phrase, regardez comme elle est belle. Il disait, l'espérance... à fabriquer deux beaux enfants qui sont la colère et le courage. La colère contre l'iniquité du monde et le courage de s'engager pour la cité. C'est une définition magnifique. Ça change de l'espérance vue comme un truc gnangnan, on va être espérant. Il y a un côté volontariste et un côté combatif dans l'espérance. Quand on lit un peu Bernanos, on s'en rend compte, quoi. Donc voilà ce que je voulais vous dire. J'ai peut-être parlé un peu longtemps. Non, ça va ? Non, parce que mes filles me disent toujours que je suis trop bavard, alors si je me lance... Oui, je veux bien un petit verre d'eau. Je voudrais faire une autre remarque, parce que ça fait trop ou quatre fois que je rencontre comme ça des gens, trop ou quatre fois de manière récente, quoi, et notamment des jeunes. Et moi, il y a une chose qui me frappe beaucoup... et qui m'a frappé en écoutant les gens qui interviennent dans ce film, c'est leur intelligence des choses, quoi. C'est des gens qui ont réfléchi beaucoup, et qui ont une intelligence, tu as raison, une intelligence charnelle, quoi, une intelligence, ils connaissent les choses, et ils en parlent énormément bien. Mais je me disais, je pense notamment à la dame dont j'ai oublié le nom, qui fait les jardins, qui parle avec une joie, avec une intelligence, ou celle qui fait le vin, mon boucher, Fanny. Mais on peut l'écouter pendant des heures, parce que je ne veux pas être méchant, mais vous savez, elle dit beaucoup plus de choses en 5 minutes que la plupart des intellectuels parisiens. Honnêtement, vous la mettez à côté de Luc Ferry, au bout d'un moment, il va se taire. Ah, vous allez me dire que je prends... vous allez me dire que je prends des exemples extrêmes. Je parle de lui parce que j'ai appris dans le Figaro qu'il apportait son soutien à Laurent Wauquiez. Ça paraît bizarre, hein ? Alors les confrères me disaient, il va en ressortir en lambeaux. Je lui dis, tu veux dire qu'il va mettre en lambeaux Wauquiez, parce que être soutenu par Luc Ferry, c'est une catastrophe, quoi. En même temps, j'essaie de gérer mon agacement, parce qu'on a eu beaucoup de mots désagréables. Il m'est arrivé plusieurs fois d'être invité à une conférence où il devait être, et quand il a appris que j'y étais, il venait pas. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais comment vous dire ? J'ai fait dans un petit livre qui s'appelle qui s'appelle Une autre vie est possible. J'ai essayé de tirer un bilan sérieux du fait que je vive à la campagne 5 jours par semaine, en Charente. Vraiment à la campagne. J'ai essayé de faire un livre sur le thème. Il y a des gens qui n'ont jamais lu des livres, chez eux il n'y a aucun livre, et qui sont plus cultivés que nous. Vous comprenez ce que je veux dire ? Moi, j'ai un ami qui vient me donner un coup de main là chez moi, qui s'appelle Jean-Claude Daubord, qui a mon âge, qu'il n'a jamais ouvert un livre de sa vie. Mais quand je parle avec lui, c'est moi qui suis intimidé. Parce qu'il a une connaissance des choses, une connaissance des arbres, une connaissance de la manière dont poussent les plantes, une connaissance de la terre, une connaissance des animaux, une connaissance de... Il a une vraie connaissance des choses. Et quand il le formule, c'est vrai qu'on se trouve inculte. On a peut-être lu tout Saint-Augustin, mais on est un petit con, quoi. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et j'aime bien, et j'ai trouvé sympathique, d'ailleurs en lisant même ce qu'est devenu le livre, cher Romain, j'ai été frappé par ça, que j'ai été frappé au carré, si j'ose dire, en les entendant parler, quoi. La manière, à la fois, tous les témoins qu'on a entendus sur l'écran, il y a deux choses qui m'ont frappé. C'est d'abord qu'ils ont l'air heureux de ce qu'ils font. Et ça, c'est pas la réalisatrice qui les a grattés dans le dos pour les faire sourire. Ils ont l'air épanouis, ils ont l'air heureux, même si elle a choisi les... Honnêtement, j'aurais envie de lui dire, cher Cerna, venez à Saint-Germain-des-Prés, le petit village où je travaille, là à Paris, et essayez de trouver des gens autour de vous qui seraient aussi heureux de parler de leur boulot. Ou descendez dans le métro à Paris, puis essayez de trouver des gens contents de la vie qu'ils ont. Vous n'en trouverez pas. Donc ça m'a frappé, c'est la joie qui se voit sur les visages. Regardez cette dame Montboucher, comment vous dire, elle est irrésistible. Et non seulement elle est irrésistible parce qu'elle est joyeuse, mais elle parle avec intelligence de ce qu'elle fait. Ils ont réfléchi beaucoup, etc. Donc honnêtement, j'ai été heureux parce que ça, je l'ai souvent retrouvé. Quelquefois, on me demande d'aller animer des choses... Ma femme dit que j'accepte trop souvent parce que j'ai du boulot et tout ça. Mais en même temps, chaque fois, je lui réponds, tu sais, il y a des fois, j'y vais un peu à reculons parce que j'ai accepté une invitation à faire un débat dans un petit bled. J'ai accepté ça il y a 6 mois en me disant c'est loin. Et puis quand ça arrive, je me dis quelle idée j'ai eue d'accepter d'aller là-bas. Donc je pars un peu à reculons, vous comprenez. Et chaque fois, je vous le dis ça, je vous dis pas ça pour vous faire plaisir, chaque fois, et ça sera le cas ce soir, je rentre chez moi avec le sentiment réel d'avoir beaucoup plus reçu que donné. C'est aussi d'avoir reçu beaucoup de choses de ces rencontres, quoi, d'avoir m'être regonflé. Et ça m'a toujours mis en garde, mis en réserve contre cette espèce de sinistrose qui règne en France, notamment à la télévision, et que la France monte en épingle. Vous savez ce que je veux dire, hein ? Et dans un livre, parce que en fait, cette sinistrose, quand on voit les gens de près, quand on vous voit, vous, on s'aperçoit que la France se porte mieux que ce qu'en dit la télévision, pour faire court. Vous comprenez ce que je veux dire ? Mais comment vous dire ? C'est vrai que... Je vais vous raconter une histoire, parce que quand j'étais journaliste, j'étais reporter, alors c'est vrai que j'ai fait ça pendant 26 ans pour la guerre. Donc j'allais 15 jours, 3 semaines au Liban, puis je revenais à Paris, puis ensuite je retournais 2 semaines en Éthiopie, puis je revenais. Et en général, j'allais dans des endroits où c'était la mort, quoi. C'était les tueries, c'était l'épouvante, etc. Et puis à la fin, je rentrais en France. Et j'éprouvais ce que j'appelais le syndrome de Roissy. Et je vais vous raconter ce que c'était le syndrome de Roissy. J'avais eu cette idée une première fois en revenant de Beyrouth en pleine guerre. J'avais passé 3 semaines ou 4 semaines à Beyrouth. C'était exténuant, c'était terrible. C'était... On vivait des choses tellement rudes que je peux en faire confession en public. C'est la seule fois de ma vie où je me suis mis à fumer des joints. Pour tenir le soir. On était une demi-douzaine de confrères. Le soir, on se réunissait chez le correspondant du Monde, Lucien Georges, et on fumait des joints. Mais après, ça m'a arrêté. Je me suis arrêté, rassurez-vous. Et ça veut dire que tout d'un coup, quand le journal vous téléphonait à Beyrouth pour vous dire « Allez, maintenant, tu rentres à Paris, ça va ?» On était assez contents de rentrer. Et je me souviens de cette scène que j'ai vécue au moins 15 fois. D'abord, vous allez à l'aéroport, puis vous montez dans le... À l'époque, c'était des Boeing 747 d'Air France. Tout d'un coup, vous avez l'impression de retrouver la civilisation. Ça sent bon, ça sent l'eau de Cologne. Il y a les hôtesses bien avec leur talon haut, tic, 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 tic. Vous avez l'impression, franchement, de retrouver le monde civilisé. Mais vous êtes tellement fatigué que... Moi, je m'endormais. J'étais crevé parce qu'on n'avait pas dormi beaucoup. Donc l'hôtesse me disait... Et puis je dormais. Dès que l'avion décollait, je dormais. Et je me souviens, ça s'est passé 4 ou 5 fois de la même façon. C'est l'hôtesse qui, à un moment donné, me prenait par l'épaule et me disait « Monsieur, s'il vous plaît, vous voulez redresser le dossier de votre chaise et puis redresser la tablette parce que nous avons commencé notre descente vers Roissy-Charles-de-Gaulle. » Alors je dis « Ah bon, très bien. » Alors j'étais un petit peu dans les vapes comme ça. Et puis je regardais par le hublot en attendant de revoir la France. Quand on part même un mois dans la guerre, on est content de retrouver son pays. Et puis, alors, en général, on était au-dessus des nuages, donc j'attendais que l'avion perce la couche des nuages, et tout d'un coup, hop, on avait percé la couche de nuages, et je revoyais mon pays. Avec une espèce d'enthousiasme que vous pourrez juger enfantin, mais j'étais pourtant largement adulte à l'époque, et je pense que si je le ferais maintenant, j'aurais prouvé le même. Une espèce d'enthousiasme, parce que d'abord, je me disais des choses, c'est incroyable. On voyait la France d'en haut, vous savez, avec les petits villages, les petites routes sinueuses, les champs tirés au cordeau, comme ça. Et je me disais, c'est incroyable, il n'y a aucun cratère de bombe. Parce que quand vous êtes là-bas, vous êtes habitué à survoler sans arrêt des cratères de bombe. Et c'est notamment au Vietnam, où les B-52 faisaient... Et là, tout d'un coup, il n'y a pas de cratère de bombe. Et c'est magnifique. Et puis vous vous dites, mais quand on va arriver à Roissy... Je vais prendre un taxi, je vais rentrer à Paris et je vais savoir là-bas qu'il n'y aura pas, je pourrai traverser une avenue sans courir parce qu'il n'y aura pas de mitrailleuse lourde comme à Sarajevo qui voudra me flinguer pendant que je traversais la rue parce que j'ai connu ça. Et puis on arrive à Roissy, l'avion se pose, on attend sa valise au tourniquet là, puis on prend sa valise et je sors. Et tenez-vous bien, quel est le premier contact avec mon pays, quoi? Et avec ma tribu, c'est la tronche du chauffeur de taxi. Et qui, à peine avez-vous, avant même que vous soyez monté dans le taxi, commence à vous dire « Ah bon, vous savez, monsieur, il y en a marre ici, l'essence est trop chère, les policiers nous tracassent, il y a maintenant Uber, notre licence ne vaut plus rien, on a mis l'intérieur qui est un imbécile, etc. » Et vous vous dites « Ah bon ?» Et une fois, j'ai été très mal élevé. Une fois, j'étais tellement en colère, j'étais tellement ému parce qu'on avait vécu à Beyrouth des choses un peu dures. Je lui ai dit, pauvre con, si tu savais d'où j'arrive, tu dirais pas ces conneries. Le type, il était tellement sidéré qu'il a fait démarrer sa voiture, plus un mot jusqu'à l'arrivée à Paris. Plus un mot et plus un pourboire pour moi. Je ne vais pas laisser. Ça veut dire que tout d'un coup, comment vous dire, c'est difficile à dire ça. Quand j'ai fait l'expérience dans des pays tragiques, je pense au Cambodge, je pense au Vietnam, je pense à l'Éthiopie, à l'Érythrée, je pense au Liban, etc. Dans les moments les plus tragiques, j'ai toujours trouvé des gens qui n'en rajoutaient pas dans la sinistrose, quoi. J'ai même trouvé des gens capables de tenir debout, capables d'entreprendre, capables d'être dans l'espérance et tout ça. Et quand j'arrivais à Paris, j'avais l'impression d'entrer ou dans une maison de retraite, ou dans un asile d'aliénés. Tout d'un coup, et j'étais humilié, y compris pour moi-même, parce que je me disais, petit Jean-Claude, dans 3 semaines, tu seras comme eux. Parce que vous reprenez les habitudes, vous comprenez ce que je veux dire. À Saint-Germain-des-Prés, être joyeux, ce n'est pas bon signe. Si vous êtes joyeux, de tempérament joyeux, et plutôt habité par l'espérance, vous passez pour un imbécile, pour un crétin, quoi. À Saint-Germain-des-Prés, pour s'imposer, il faut être un prophète d'Apocalypse, il faut annoncer la catastrophe, il faut annoncer le monde qui s'écroule, etc., et qu'il n'y a rien à faire. Là, tout d'un coup, vous avez un papier dans le monde et tout ça. Mais tandis que si vous êtes joyeux, On se dit, qu'est-ce que c'est que ce zigoto? C'est un charlatan, c'est un bouffon, comme disent maintenant les gens. Donc moi, j'adore ça, parce que j'adore provoquer les gens de Saint-Germain-des-Prés. Je leur préfère les gens des Aisies. Je dis ça par démagogie. Merci à vous.